santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dépression, anxiété, épuisement, insomnie, douleur, éruption cutanée, essoufflement. Et si ces troubles, et si ce mal-être était associé à ce qui est subi au quotidien sur le lieu de travail? Ces réflexions répétées, cette dévalorisation insidieuse, la demande d'effectuer des tâches qui ne correspondent pas au niveau de qualification ni au poste d'ailleurs, se sentir inutile ou à l'inverse hyper sollicité, sans retour de gratification. Le harcèlement moral, les risques psychosociaux sont de plus en plus connus du grand public, puisque désormais, de nombreux pays se sont dotés de textes de loi pour tenter de les prévenir et, en cas de dérive, d'en traduire les responsables devant la justice. Les entreprises, elles-mêmes, se sont dotées de structures ou font appel à une expertise extérieure pour tenter d'en prévenir les risques. Sujet dans l'actualité, puisqu'hier, l'OMS a intégré le burn-out, épuisement professionnel, dans sa classification internationale des maladies, limiter le stress au travail, faire prendre conscience des méthodes ou comportements incompatibles avec l'épanouissement dans ce cadre professionnel, informer sur la nature des conséquences pour la santé physique et mentale de ces risques psychosociaux en entreprise, identifier les symptômes, identifier bien sûr les causes. Si vous avez un témoignage à apporter, laissez-nous votre message sur notre page Facebook ou appelez-nous au 33 84 22 75 75. Risques psychosociaux, identification, conditions, impact sur la santé, pour en parler avec nous, docteur Marie-France Irigoyenne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychanalyste, auteur de l'ouvrage « Le harcèlement moral au travail » publié aux Presses universitaires de France. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à cette question. Également avec nous, Aude Célie, vous êtes l'auteur de « Renaissance », sous-titré « Il y a une vie après le burn-out », témoignage publié aux éditions Maxima. Et aujourd'hui, Aude Célie, vous êtes conférencière et consultante spécialiste de l'épuisement professionnel. Tout à l'heure, nous allons rejoindre au Cameroun le docteur Joseph Dieuboué, médecin spécialiste en santé au travail, qui travaille donc à Yaoundé. Et à l'occasion de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, en fin d'émission, on va donner la parole au docteur Éric Sauvanet, chef du service chirurgie gynécologique du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, co-auteur de Tout sur l'endométriose aux éditions Odile Jacob, le groupe hospitalier Saint-Joseph qui vient tout juste d'inaugurer un centre de dépistage et de traitement chirurgical dédié aux maladies de la femme.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marie-France Irigoyenne, l'OMS, je viens de le dire, intègre le burn-out, en français épuisement professionnel, dans sa classification internationale des maladies. Il l'intègre tout juste. C'est d'après vous le signe de quoi?
C'est le signe d'une prise de conscience de la réalité du monde du travail. Jusqu'à présent, le burn-out était considéré par l'OMS et les différentes classifications comme un trouble de l'adaptation. Comme si c'était les personnes qui n'arrivaient pas à s'adapter au monde du travail. Là, ce changement est pour moi extrêmement symbolique.
Aude Célie, burn-out, donc nouvelle, on va dire avec des grands guillemets, maladie pour l'OMS, maladie potentiellement mortelle, vous en avez fait l'expérience, mais maladie aussi dont on guérit, comme vous l'expliquez dans votre dernier livre, c'est ça aussi qui est important. On pointe les dérives, on pointe les problèmes, mais aussi on pointe les solutions.
Tout à fait. Effectivement, c'est une maladie qui bouleverse tout pour les personnes. Surtout qu'il faut savoir que les profils sont des personnes qui sont très engagées, qui aiment leur travail, qui sont passionnées, qui sont enthousiastes. C'est des personnes qui sont, je le dis souvent, qui sont des moteurs en entreprise. Donc, quand ces personnes se sont effondrées, il y a cet effondrement qui est physique, qui est mental et qui est émotionnel, voire comportemental. Et ces personnes-là ne ressemblent plus à rien. Donc, oui, on peut s'en sortir au prix, évidemment, du temps, du repos, de travailler avec un professionnel. Donc moi, en l'occurrence, c'était un psychologue du travail. Il faut travailler sur la déculpabilisation et il faut faire en sorte de s'occuper de soi, parce que pendant des années, on a mis le travail avant tout.
Alors, docteur Irigoyenne, votre travail sur le harcèlement moral a inspiré la législation française en matière au début des années 2000. Je faisais référence à cet ouvrage publié dans la collection Que sais-je. C'est pas simplement un petit lexique, c'est un livre vraiment très complet. Il pose toutes les bases. C'est vraiment une excellente base de travail pour mon émission, je le reconnais. Et tout ça, ça passe aussi par des définitions, parce qu'il y a différentes formes de souffrance au travail. Il y a différents modes, on va dire, d'action pour en arriver là.
Oui, alors quand j'ai écrit le premier livre sur le harcèlement moral en 98, qui a été à l'origine de la loi de janvier 2001, il y avait d'un côté le stress et puis on découvrait le harcèlement moral. À la suite de ça, il y a eu une confusion qui a été faite avec d'autres formes de souffrance au travail. Et maintenant, on va dire que c'est un petit peu plus clair. Le harcèlement moral, c'est un risque parmi d'autres risques psychosociaux qui englobe les violences des clients, des collègues, qui englobe le stress, le burn-out, et aussi, moi je dirais aussi, une sorte de malaise diffus, un mal-être sur le lieu de travail. Et le harcèlement moral a une spécificité. D'abord, c'est le seul qui est sanctionné directement par la loi, en tant que dans le code du travail et dans le code pénal et aussi dans le code de la fonction publique. Et les conséquences sur la santé sont assez spécifiques, au point que on pourrait presque faire, je peux faire parfois, le diagnostic, on va dire, rien que en écoutant l'état de santé, en examinant l'état de santé de la personne qui souffre.
Docteur Irigoyen, vous êtes psychiatre. Est-ce qu'il y a des gens qui vont consulter un psychiatre au départ, quand ils entrent dans le cabinet, ils n'ont aucune idée que cela a un lien avec leur travail. Ils pensent simplement qu'ils sont en dépression, qu'ils vont mal. Ils n'ont pas connecté ce qu'ils vivent au bureau et ce qu'ils ressentent chez eux quand ils rentrent à la maison.
C'est même la réalité pour le harcèlement moral. C'est même aussi très souvent pour le burn-out. C'est-à-dire, on a des personnes qui petit à petit vont de plus en plus mal, que l'on culpabilise parce que notre société met la pression pour que les personnes soient performantes. Il faut être de plus en plus performant, il faut même être en forme, avec plein d'idées. Et on a une personne qui, progressivement, va de moins en moins bien. Quand je reçois ces personnes, ou quand le médecin du travail les reçoit et qu'il dit « mais là, ce que vous décrivez, c'est pas normal. Ce que vous décrivez, c'est soit du stress, du burn-out, etc. » Donc, et à ce moment-là, c'est important de nommer que c'est lié à quelque chose qui n'est pas normal pour déculpabiliser la personne. Parce qu'au fur et à mesure que la personne va moins bien, elle est moins performante et on va la rendre responsable des problèmes que ça entraîne pour le service, par exemple.
Elle finit par s'identifier à ce qu'on lui reproche, en quelque sorte.
Oui. Alors, il faut distinguer les différentes conséquences sur la santé des différents risques psychosociaux. Dans la plupart du temps, ça commence par simplement un peu de stress, donc un peu d'irritabilité, un peu de nervosité. Alors, on fume plus, on boit plus, on est agressif.
Des problèmes de sommeil éventuellement.
On a des
aussi.
Troubles de sommeil très très souvent, et surtout cette peur, cette angoisse avant d'aller au travail. Ça, c'est quelque chose qui monte progressivement. Dans le cas du burn-out, très souvent, les personnes accélèrent tout. C'est-à-dire, ils parlent plus vite, ils sont tendus, ils font tout plus vite, et ils sont submergés avec l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver. Dans le cas du harcèlement moral, il y a une spécificité très claire qui est que, en plus de tout ça, les personnes ont honte. Elles ont honte de pas être à la hauteur de ce qu'on attend. Elles ont honte parce qu'elles ont été humiliées, mises de côté. Il y a la spécificité, puisque c'est une personne que l'on traite différemment, même si plusieurs personnes sont malmenées. Cette personne-là, chaque personne est maltraitée différemment. Ces personnes ont honte. Et puis, dans le harcèlement, très souvent, les personnes sont dans le doute. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Actuellement, là, je vais aller prochainement pour une soutenance de thèse. Le titre est « Why me ?» Pourquoi moi? qu'est-ce que j'ai fait ? Et à partir de là, ces personnes sont en quelque sorte paralysées pour leur, dans leur défense. C'est pour ça qu'il est important, comme l'a dit Aude Célie à l'instant, c'est important d'être accompagné pour que quelqu'un dise « Non, ce n'est pas normal ce que vous vivez là ».
Alors Aude Célie, justement, on va aborder bien sûr tout à l'heure le travail que vous faites aujourd'hui dans les entreprises en termes de prévention de la souffrance au travail. Mm-hmm. Vous avez été victime d'un burn-out, vous êtes allée très loin dans votre mal-être, Aude Célie. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter par quelles étapes vous êtes passée ?
Alors la question est importante parce que l'épuisement professionnel, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est progressif, comme le disait ma mère Irigoyenne, et ça s'installe dans le temps. Donc moi aujourd'hui, avec le recul que j'ai, il y a une vraie distinction qu'il faut faire entre la personne qui rentre en entreprise et la personne qui s'effondre. Il y a 4 étapes même, précisément. La première étape, en fait, c'est le plaisir au travail. Le plaisir au travail, c'est quoi ? C'est un métier que j'ai choisi. C'est un métier pour lequel, en fait, on a valider en fait ma candidature. Il y a une période d'essai, donc on est déjà dans une certaine forme de stress, surtout dans la société dans laquelle on vit. Donc dans une entreprise, il y a toujours des aspects négatifs, mais c'est pas grave. Quand on est enthousiaste, quand on est engagé, on fait avec. Et il y a ce côté aussi où dans cette phase là, il y a une vraie satisfaction, il y a une vraie perception du bien-être. Il y a plein de choses qu'on se dit, on se dit voilà, c'est un challenge, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas grave, je vais les faire, je vais absorber, et que ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, vient progressivement la phase 2. La phase 2, c'est la phase d'alarme, il se passe quelque chose, et c'est encore là, en fait, finalement, où on peut enrayer les choses.
Mais moi, j'aimerais que vous me parliez de vous. Comment ça s'est passé pour vous ? Vous me racontiez, au bout de 6 mois, il s'est passé ça. Comment ça s'est passé ?
Eh ben, en fait, responsable RH, donc métier généraliste. Je travaillais sur plusieurs domaines en même temps. Isolée, parce que mon équipe est en banlieue et moi, je suis sur Paris. Je n'ai personne à qui parler, donc de mon métier qui est... En plus, il y a une forme de confidentialité. Parfois aussi, on a des choses à faire qui vont contre nos valeurs quand on est en responsable RH. Donc, au début, le premier signal finalement, le premier signal qui arrive, il est forcément physique. Et en général, le premier signal, c'est les troubles du sommeil. Ensuite, peut venir éventuellement les problèmes, des troubles musculo-squelettiques. Et ce qui m'est arrivé, au bout de 6 mois, j'ai eu une névralgie cervico-brachiale. Donc, c'est un trouble musculo-squelettique qui est extrêmement douloureux. Mais même là, je n'ai pas fait le rapprochement en fait avec.
Vous étiez, complètement bloqué dans le haut des épaules, une sorte de.
Exactement.
Comme ça, et quand le poids du monde sur vos épaules.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a l'expression, ça me pèse ou j'en ai plein d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, au bout de 6 mois, en fait, le temps de travail commence à s'allonger aussi. Donc on travaille un peu plus, 40, 50 heures. On ne parle même pas des dirigeants finalement, mais moi en tant que cadre, par exemple, j'ai été amenée à travailler de plus en plus longtemps. Donc j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide parce que j'étais surchargée de travail, que moi j'étais sur le terrain, donc tous les salariés faisaient que j'étais en première ligne. Et quand les choses se passaient mal, c'est moi qui prenais. Il y avait le fait de travailler sur tous les dossiers et d'être systématiquement dérangée.
Donc, Aude Célie, votre entourage quand vous rentriez à la maison, qu'est-ce qu'il disait ? Comment il vous voyait ?
Alors, dans ces phases-là, au début, pas grand-chose en fait finalement, parce que on est encore une fois, on est encore motivé, etc. Mais quand on arrive dans la phase qui vient juste après la phase d'alarme, là il y a des choses qui commencent à vraiment en fait se déclencher, les signaux commencent à être récurrents, qui commencent à se développer. Donc après j'ai eu des reflux gastro-œsophagiens, j'ai pris de plus en plus de poids, j'étais addict en fait au sucre. Et en fait là, mon entourage a commencé à se dire, mais déjà Aude, tu travailles trop. Mm-hmm. Ça, c'est les messages vraiment qu'on entend de notre entourage. Mais pourquoi tu continues? Les situations sont, enfin, tu mérites pas ça. Et surtout, c'est trop. Tu t'engages trop dans cette société qui ne te reconnaît pas. Un manque de reconnaissance, c'est extrêmement important.
Et vous n'entendiez pas ces remarques?
Non, on n'entend pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est liée, mais clairement par rapport à la performance. On n'existe pas sans le travail. La première personne que vous voyez, deuxième question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Les gens vous répondent par rapport au travail. Donc, non. Et puis, il y a cette peur aussi de perdre son travail. Il y a énormément de suicides. On en parle évidemment pour les gens qui sont au travail, mais les gens qui sont hors du travail aussi, il y a énormément de suicides. Donc, il y a eu ils ont commencé à me dire ça, mais même à ce moment-là, on se dit, non, c'est pas grave, je vais tenir, je vais y arriver. Et on prend des choses, comme disait Mamie Rigoyenne, on prend ce qu'on appelle des éléments qui sont des conduites addictives. Et moi, ça a été un élément très vraiment parfait pour moi. Le premier burn-out, en fait, pré-burn-out que j'ai fait, j'arrive, donc je sors de mon train, incapable de faire un pas devant l'autre. Je me retrouve dans le salon, dans le cabinet d'un médecin du travail. J'étais en pleurs, mais j'arrive pas à les contrôler, qui me dit, Otsélie, écoutez, vous allez faire un, ça va pas du tout. Est-ce que vous en parlez au travail? Je dis, oui, bien sûr. Et là, il me dit, mais si vous continuez comme ça, dans 6 mois, vous allez craquer. Et en fait, il s'est trompé, parce que c'est 9 mois après que j'ai fait ma tentative de suicide. Mais pourquoi, en fait? Parce que ce jour-là, il m'a prescrit des anxiolytiques. Et c'était la pilule magique. C'était vraiment grâce à ces pilules-là qui faisaient qu'au fur et à mesure du temps, je trouvais le moyen de m'en faire prescrire vraiment.
Vous pouviez supporter l'insupportable.
On pouvait supporter, vraiment. Et après, bah, malheureusement, dans cette phase-là, personne n'est capable de vous dire si la personne va craquer au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout de 15
mois. Il vous avait pas prescrit un arrêt de travail?
Il m'a prescrit, mais les gens disent non. Pourquoi?
Vous avez dit non.
Non, je précise que c'est vraiment les victimes. Pour la simple et bonne raison qu'on en revient à ce que dit Mme Irigoyenne.
Non, mais je dis pas vous en tant que personne, c'est qu'à ce moment-là, quand il vous l'a proposé, vous avez dit non, vous n'étiez pas en disposé à le faire, vous aviez une résistance intérieure qui vous empêchait de le faire.
C'était pas qu'intérieur, c'était aussi externe, parce que quand on s'arrête, il faut rattraper le derrière, le travail. Donc ça aussi, c'est le côté, mince, je suis toute seule, faut que je récupère tout le travail, donc non.
Qu'est-ce que vous disiez à votre hiérarchie à ce moment-là?
Bah, j'ai demandé de l'aide, je suis surchargée de travail, il me faut une assistante.
Donc, et qu'est-ce qu'il vous répondait?
Bah, il me répondait, bah, écoutez, on n'a pas le budget, Aude. Donc, moi, je trouve des solutions. Donc, on va prendre une stagiaire. Ah, bah, là, on est d'accord parce que c'est 400 euros par mois. Et en plus, elle peut se substituer à un travail à temps plein. Donc, j'ai demandé de l'aide et j'en ai pas eu.
Vous n'avez pas eu d'aide. Est-ce que vous avez considéré qu'à un certain moment, qu'il y avait un caractère délibéré, un acte de la part de hiérarchie qui provoquait votre souffrance?
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que on en est un peu aux trois singes de la sagesse. Où on se bouche les oreilles, on ferme les yeux, où on coupe la parole. Et ben, en fait, la société fait que on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a des signes qui sont visibles. On entend aussi le discours, mais la société ne réagit pas. En fait, pourquoi j'en reviens que ce sont des personnes qui sont motivées, qui obtiennent des résultats, ce sont les meilleurs. Donc on ne réagit pas.
Docteur Marie-France Irigoyenne, justement, cette question sur le caractère délibéré, parce qu'après, il y a éventuellement la justice. Est-ce que avoir un chef qui volontairement vous fait du mal, vous parle mal, est-ce que ça fait plus souffrir qu'être dans un cadre qui fait du mal sans qu'on ait identifié un responsable?
Alors d'abord il faut nuancer tout ça. Dans le cas du burn-out, alors c'est vrai, ce que vient de dire Aude me paraît important, les personnes ne prennent pas conscience de cette gravité de ce de leur souffrance. Et quand on propose, moi quand je propose un arrêt maladie, la plupart du temps, on le refuse. Alors, je dirais, le caractère délibéré, il faut comprendre que dans le cas du burn-out, c'est la personne qui se met elle-même la pression. C'est pas, il y a le discours de l'entreprise qui veut du toujours plus. Et il y a la personne le salarié qui est très investi, trop investi sans doute, et qui ne veut pas, qui a peur de ne pas être à la hauteur et qui donc se en fait toujours plus. Alors comme Aude vient de l'expliquer, au fur et à mesure que l'on est fragilisé par, on est en pré-burnout, on travaille moins, on est moins performant puisqu'on est déjà débordé et donc on fait plus d'heures et on en fait toujours plus jusqu'au moment où ça craque. Donc dans le burnout, c'est une conséquence directement de la pression que se met la personne pour convenir à l'entreprise, mais aussi pour convenir à la société. Un monde dans lequel il faut être performant, il faut réussir, il faut effectivement...
Mais il y a même le vocabulaire, on dit être corporate en anglais
corporate,
dans le texte, donc
absolument.
C'est coller, adhérer à tout, hein,
voilà.
Tout et n'importe quoi d'ailleurs en général.
Alors, le burn-out s'est tellement étendu que maintenant on parle d'un burn-out des mères de famille qui veulent en faire trop, parce que on en fait trop, et c'est le changement de la société, changement que je viens de
pointer
dans mon dernier livre qui s'appelle Les Narcisses. Au contraire, dans le harcèlement moral, il y a quelque chose de plus. Dans le harcèlement moral, on vise spécifiquement chaque personne. Alors, il n'y a pas intentionnalité. La définition du harcèlement moral dit agissements qui ont pour objet ou pour effet des conséquences désastreuses sur la santé. Donc, on peut harceler sans le faire exprès. Mais il y a rarement une intentionnalité malveillante. Par contre, il y a très clairement une indifférence à l'autre. Un manque de considération pour la personne, un manque de considération pour l'élément humain sur le monde du travail. Et donc, les personnes, quand elles commencent à dire « j'ai besoin d'aide, donnez-moi un stagiaire, ou donnez-moi quelqu'un pour m'aider », elles sont pas entendues, parce que on voudrait qu'elles soient des robots, les personnes, et qu'elles donnent toujours plus.
Et parfois, ça se termine devant la justice, hein, comme c'est le cas en ce moment avec devant le tribunal correctionnel de Paris, le procès France Télécom. Jusqu'au 12 juillet, les anciens dirigeants de l'une des plus grandes entreprises de France, hein, le patron numéro 2, l'ex-directeur des ressources humaines, quatre autres anciens responsables accusés d'avoir mis en place une politique d'entreprise visant à déstabiliser les salariés, créer un climat professionnel anxiogène. Donc, c'est un procès pour harcèlement moral, on l'a compris. Dossier hors norme pour l'avocate Sylvie Topalov. Elle représente de nombreuses parties civiles dans ce procès. Et Raphaël Constant l'a rencontrée.
Je crois que c'est le procès qui, pour moi, aurait été certainement le plus difficile. Je dois dire que je suis absolument frappée, bouleversée par la façon dont les victimes dans ce procès-là réagissent. La dépression dont ils ont été victimes au moment des faits, c'est-à-dire maintenant, il y a quand même plusieurs années, semble intacte. Et donc, dans la plupart des cas, les gens ne veulent absolument plus entendre parler de France Télécom. Et l'évocation de ce procès les terrorise complètement. Ils refusent même de venir témoigner pour bon nombre d'entre eux. Et pour les familles, c'est un drame tout aussi grand. C'est-à-dire que perdre un être cher dans ces circonstances-là, et un suicide, c'est vrai que c'est jamais une seule cause. Et puis de toute façon, un suicide, même quand il est avéré que la cause en est le travail, parce qu'on a laissé un mot ou quelque chose comme ça, évidemment, l'entourage est à la fois terriblement en colère, parce qu'on ne devrait pas mourir de son travail, et en même temps, nécessairement, se questionnant comment n'ai-je pas évité un tel drame.
En termes de santé, qu'est-ce que vous avez constaté chez ces personnes ?
On a énormément de certificats médicaux, des consultations de médecine du travail, et il y a aussi maintenant des consultations de maladies professionnelles dans un certain nombre d'hôpitaux qui nous permettent d'avancer avec des médecins psychiatres qui sont capables, eux, d'indiquer que les symptômes qu'ils constatent sont nécessairement en lien avec une situation de travail délétère qui amène à cette souffrance-là. Par exemple, les médecins disent que il y a des AVC, il y a des... C'est aussi bien le mal de dos, si je vous parle par exemple des gens qui travaillaient ce qu'on appelait les marguerites, avec 7 mètres carrés d'espace pour chaque personne sur la plateforme. Il y a des gens qui souffrent de sensations d'étouffement, de crises de panique, des crises de larmes sur les lieux de travail, c'était des choses qui étaient extrêmement courantes. Et quand on arrive tous les matins à la boule au ventre en disant « je ne vais pas y arriver », on imagine toutes les conséquences somatiques que cela peut avoir. C'est-à-dire que le corps aussi était atteint par la déstructuration du travail tel qu'il s'était déroulé jusqu'à présent. Si vous êtes depuis 20 ans à un travail que vous aimez, avec des collègues de travail, où vous vous sentez avoir de la reconnaissance, tout d'un coup, pourquoi est-ce qu'on vient vous envoie toutes les semaines 50 mails pour vous dire qu'il y a un poste de maître nageur qui va se libérer, il y a une pizzeria qui cherche un patron? Les gens se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ces situations de rupture par rapport aux liens de confiance qu'ils entretenaient avec leur supérieur hiérarchique a été brisée et les a détruits au point qu'ils ont retourné cette violence contre eux-mêmes. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose de particulier à France Télécom.
Vous suivez d'autres dossiers de personnes qui souffrent au travail. Qu'est-ce qui revient le plus ? Quelles sont les causes du burn-out ?
La surcharge de travail, l'absence de reconnaissance, des liens délétères avec les chefs. Les problèmes les plus fréquents sont des problèmes d'organisation du travail qui ne sont pas suffisamment pensés en amont. Chez France Télécom, c'est caricatural. La façon dont ils ont organisé, par exemple, les plateformes téléphoniques, c'est une aberration conceptuelle. D'imposer, par exemple, à quelqu'un dans un souci d'efficacité, de lire un script pour répondre au téléphone, alors que la personne connaît son travail, connaît ce qu'il vend, c'est lui faire perdre toute autonomie dans son travail, toute liberté d'avoir un rapport singulier avec la personne qui lui téléphone. Et ça, ça a cassé les gens, littéralement. Et l'idée que c'est plus efficace, parce qu'on va plus vite quand on répond à un script, c'est même sur le plan de l'efficacité du travail une erreur. Voilà le type de méthode qui devrait être pensée en amont par les employeurs pour qu'ils se demandent si le seul motif est la rentabilité, est-ce que même en termes de rentabilité, on ne serait pas plus rentable si on faisait aussi en fonction de ce qu'un homme est capable de faire ?
Sylvie Topaloff, avocate des parties civiles à ce procès France Télécom. Forcément, vous le suivez de près, hein, docteur Marie-France Irigoyen. Ce qu'on entend, à vos yeux, plusieurs éléments de harcèlement caractérisé ? Harcèlement moral ?
Pour moi, c'est incontestablement du harcèlement caractérisé, même si c'est pris au niveau managérial. C'est-à-dire, c'est du harcèlement institutionnel. Au fond, les méthodes utilisées pour faire cette restructuration, faire une restructuration en soi, c'est normal, mais les méthodes sont incontestablement violentes et visant chaque personne dans sa spécificité. Par exemple, un père de famille a été muté à 400 kilomètres. Par exemple, un ingénieur a été oublié sans téléphone, sans ordinateur. Toutes ces choses étaient délibérées étaient vécues comme délibérées pour que les personnes donnent leur démission ou se soumettent. Et au fond, c'est la définition du harcèlement moral. C'est casser des personnes pour qu'elles se cassent, pour qu'elles soient qu'elles partent ou bien qu'elles deviennent soumises et qu'elles acceptent tout ce qu'on leur demande d'accepter.
Et déjà, témoigner, c'est faire le premier pas, on peut dire, dans certains cas, pour aller mieux. On va justement donner tout de suite la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
RFI.
Avec Salma qui est en ligne avec nous. Bonjour Salma, vous nous appelez de Niamey au Niger. Bonjour.
Bonjour.
On tenait à faire passer votre témoignage, on vous écoute.
Oui, en fait, moi j'ai travaillé dans une entreprise de téléphonie mobile d'origine luxembourgeoise, en Djamena au Tchad de 2007 jusqu'en 2017 où j'ai été contrainte de démissionner. En fait, tout a bien commencé au départ quand j'ai commencé à travailler, mais les choses ont commencé par devenir problématiques vers 2015 au moment où on parlait de la crise économique au Tchad. Donc, du coup, on avait déjà remarqué qu'il y a des licenciements au sein de l'entreprise. Donc, cela a créé quelque part une atmosphère un peu d'inquiétude au travail. Mais les choses ont accéléré très vite parce que suite au licenciement, la charge du travail a commencé vraiment par être très, très insoutenable. Alors, progressivement, en fait, moi, j'ai commencé par sentir quelques symptômes, par exemple, une fatigue très prolongée, des maux de tête très violents. J'ai également une sensation de démotivation brusque, alors que moi, je suis une personne qui est très exigeante vis-à-vis de mon travail. Je veux vraiment que le travail soit bien fait. Et à un certain moment, je commençais par me poser des questions. Si, en fait, c'est moi qui n'arrive pas vraiment à réaliser de ce travail, est-ce que je présente, par exemple, des problèmes ou bien, en fait, le problème vient de l'entreprise. Donc, progressivement, cela m'a vraiment créé des problèmes parce que, en fait, je me suis rendu compte que même quand je conduis la voiture, à un certain moment, j'étais déconcentrée, j'avais des insomnies, j'avais des tristesses insoutenables, je mangeais moins, j'étais très triste, j'étais isolée et c'était, en fait, ma famille qui avait remarqué ce changement de comportement.
Et ça a mis plusieurs mois jusqu'à ce que vous soyez finalement contrainte de quitter votre emploi. Ce que vous craignez le plus justement est arrivé.
Oui, ce que je craignais, c'est qu'en fait, un jour, j'ai pris ma tasse le matin, comme tous les jours, hein, je prends ma tasse, je peux prendre le thé, et puis au moment où je suis allée aux toilettes pour le rincer, j'ai perdu connaissance. Mais il faut savoir qu'avant que je perde les connaissances, les symptômes se sont vraiment accumulés parce que j'avais le sentiment d'avoir une accélération du rythme cardiaque. J'avais la sensation que je perdais mon bras gauche progressivement pendant presque un mois. J'allais à l'hôpital, je partais à l'hôpital, mais jamais les médecins m'ont parlé de burn-out, de problèmes de travail. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils me disaient que tout va bien. J'ai même fait un scanner de la tête. Ils m'ont dit que tout va bien, pas de problème. Et moi, je pensais qu'en fait, le problème venait de moi. Et j'ai continué à travailler. Et c'est là où un jour, j'étais aux toilettes et puis je ne me rappelais plus de rien. Quand je me suis réveillée, j'étais sur le lit d'hôpital. J'étais entourée des gens. J'écoutais des voix. En fait, quand j'écoutais les voix, j'avais le sentiment de connaître ces voix-là, mais je ne me rappelais pas. Mais au fait, c'était les voix de mes collègues de travail, c'était ma famille, mon père, ma mère, mais je ne me rappelais rien du tout. Et c'était petit à petit, le soir, parce que je me suis réveillée vers 14h, et puis c'était le soir que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était ma mère, c'était mon père. Mais jusqu'aujourd'hui, je vais vous dire, hein, depuis 2017 jusqu'aujourd'hui, en 2019, je ne me sens pas prête à reprendre un travail parce que psychologiquement, je me sens vraiment démotivée. Et jusqu'à là, de temps en temps, j'ai des maux de tête.
Vous êtes suivie, Salma? Comment est-ce que vous êtes prise en charge?
Je ne suis pas prise en charge. J'ai juste démissionné parce qu'il y a la question de santé. Soit je continue à travailler, ça devient très problématique. Soit je démissionne et j'ai choisi de démissionner. Et il n'y a pas de suivi parce qu'il faut, pour qu'il y ait du suivi, il faut que le médecin sache que c'est un problème de burn-out ou bien c'est lié au travail. Mais rien du tout, on me dit que tout va bien. Je suis pas malade, quoi.
Salma qui se retrouve, merci infiniment hein, Salma pour ce témoignage qui est vraiment édifiant. On y voit, on va dire, tous les ingrédients qu'on a énumérés. Docteur Irigoyen, on la voit en plus qui est démunie parce que il n'y a pas la reconnaissance en plus de la causalité de ses souffrances.
Ça c'est extrêmement difficile. Alors ce qu'on sait quand même, c'est que l'Organisation internationale du travail a fait une enquête et a montré que quand même dans la moitié des pays du monde, enfin en tous les cas sur 40 pays sur 80 qu'ils ont examinés, les souffrances au travail, les risques psychosociaux sont reconnus. Toute la difficulté, c'est, on l'a vu avec Salma, c'est de commencer à se faire aider dès le début des symptômes. Et là, il a fallu qu'elle tombe dans les toilettes pour que elle prenne conscience, au fond, que c'était quand même quelque chose qui était lié au travail.
Mais ce qu'on entend dans son témoignage, c'est qu'elle a compris ce qui lui était arrivé.
Elle a compris,
a fait le chemin toute seule, avec beaucoup de souffrance.
Mais malheureusement, toute seule. C'est-à-dire qu'il faudrait un accompagnement.
Et c'est pour ça qu'il y a 30 à 40% de
ces... Et c'est pour ça que c'est important de parler de plus en plus de ces troubles, pour que les personnes puissent se faire aider plus tôt et cherchent de l'aide. Il y a quand même de plus en plus de possibilités dans les différents pays. Il y a des différentes aides possibles. Encore faut-il les trouver.
Justement,
et ça, il faudrait que ce soit diffusé.
Docteur Irigoyen, justement, ce qu'on entend, c'est que là, ce sont les ressources médicales qui n'ont pas été, entre autres, à la hauteur.
Ouais.
Ce médecin du travail qui a dit, continuez, madame, allez vous reposer 5 minutes, tout va bien pour vous.
Malheureusement, beaucoup de médecins du travail maintenant sont formés, mais pas tous. Et qu'effectivement, ce n'est pas normal.
Voilà. En tout cas, on remercie beaucoup hein, Salma, parce qu'il faut pas mal de courage pour témoigner justement sur ce qui s'est passé. Otseli, vous avez trouvé la force dans ce livre, en écrivant plusieurs ouvrages, où vous racontez au jour le jour ce qui s'est passé. Oui. Ça a servi à quoi, cette écriture?
À de la reconnaissance. Parce qu'en 2012, quand j'ai fait ma tentative de suicide, on n'en parlait pas du burn-out. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, de recevoir énormément de courriers, que, entre guillemets, les livres aient fonctionné, ça m'a fait vraiment comprendre que c'était un sujet qui concernait, je ne dirais pas même pas des milliers, mais des millions de personnes. Donc ça a permis de donner de la valeur et de faire reconnaître qu'il y a eu une réalité.
Alors on a eu ce témoignage à Niamey, on va voir tout de suite comment ça se passe du côté du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, docteur Joseph Dieuboué, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin spécialiste en santé au travail à Yaoundé. On a entendu à l'instant le témoignage de notre auditrice qui s'est retrouvée démunie alors qu'elle souffrait visiblement d'un burn-out caractérisé. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez en consultation, vous, à Yaoundé, docteur Dieuboué, des travailleurs qui viennent vous voir en disant « ça ne va pas à mon travail » ou en général ils viennent pour toute autre chose?
Alors, il faut dire que les problèmes des risques psychosociaux sont quand même en augmentation dans notre contexte d'exercice. De plus en plus, nous recevons en consultation dans les services de santé au travail des personnes qui viennent pour des plaintes comme « j'ai les nerfs, j'ai le cou qui me fait mal, je ne dors pas assez, je suis fatigué, docteur, je n'arrive plus à travailler. Voilà les principaux symptômes pour lesquels nous recevons de plus en plus les travailleurs aujourd'hui. Et lorsqu'on va dans l'enquête, la discussion, lorsqu'on leur donne la possibilité de parler, d'avancer, on se rend compte qu'il y a des problèmes plus sérieux derrière, perte de l'envie de travail, la démotivation, l'anxiété, l'irritabilité, avec parfois des conséquences conflictuelles, même au niveau familial, au niveau professionnel. Voilà à peu près comment s'exprime la réception ou bien la relation consultation-médecin chez nous aujourd'hui.
Et il y a justement cette reconnaissance, notre auditrice qui nous disait que le médecin du travail avait dit, ne lui a même pas consenti un arrêt de travail, n'avait pas reconnu son épuisement. Dans votre cas, justement, il y a vraiment cette sensibilisation et cette ouverture, docteur Joseph Dieuboué?
Je pense que cette question nous ouvre la possibilité de parler du diagnostic même des risques des problèmes psychosociaux.
Oui, le repérage.
Voilà le repérage. Vous dites qu'il y a plusieurs étapes à travers lesquelles le médecin du travail avec les travailleurs peuvent diagnostiquer ça déjà à l'embauche. L'enquête santé du travailleur ou bien l'anamnèse du travailleur devrait pouvoir identifier les risques de problèmes psychosociaux relatifs à sa personnalité et au poste de travail. En dehors de l'embauche, pendant les visites périodiques, dont notamment ce que nous appelons ici chez nous, les visites systématiques annuelles, ça donne encore l'opportunité de faire le tour avec le travailleur pour voir s'il y a ces problèmes. Et en dehors de ça, plus fréquemment, nous avons des consultations courantes parce que dans notre système, les services de santé au travail sont appelés à donner l'appui dans la prise en charge des travailleurs sur les lieux de travail. Donc ça donne l'occasion aux travailleurs de venir consulter leur médecin. Et c'est la meilleure occasion à travers laquelle les médecins rencontrent les travailleurs ou bien les travailleurs ont l'opportunité de parler de leurs problèmes, de leurs difficultés aux médecins.
Mais on perçoit tout de suite une dimension très importante, docteur Joseph Dieuboué, c'est la confidentialité, la confiance. Pour pouvoir se confier, il faut avoir l'assurance que le professionnel de santé va garder ce qu'il faut comme information pour lui, qu'il va bien informer le patient, mais qu'il ne va pas aller ensuite divulguer ces informations au patron, au chef ou à l'entourage.
C'est l'essentiel, madame, de la collaboration entre le médecin et le patient en ce moment. Tant que le travailleur n'est pas rassuré, c'est deux choses. La première, la disponibilité du médecin à l'écouter. La deuxième, la confiance par rapport à la confidentialité. Lorsque le travailleur a cette assurance, il va s'ouvrir progressivement au médecin. Mais tant qu'il n'en a pas, il va tourner, mais ne va pas nécessairement aller au fond de son problème. Et sur ce plan, ce qui est important quand même, c'est de passer un message pour dire que le médecin du travail, de par les dispositions éthiques prévues dans le Code international d'éthique pour les professionnels de santé au travail, devrait garantir les moyens de confidentialité à ses interlocuteurs, ses patients qui viennent se consulter.
Très important de garder justement ce secret médical, y compris quand on exerce dans un cadre professionnel. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Docteur Joseph Dieuboué, je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en santé au travail à Yaoundé.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Le temps passe vite, il passe beaucoup trop vite. J'avais beaucoup, beaucoup de questions, hélas. Seulement quelques minutes d'échange encore. Question, docteur Marie-France Irigoyenne, sur certains secteurs d'activité. Comment se fait-il qu'on est davantage malade de certains emplois que d'autres aujourd'hui?
Oui. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le harcèlement, on pensait que c'était uniquement dans le secteur privé à cause de la pression qui était pour la productivité et la performance. Actuellement, on voit que le secteur public est encore plus en difficulté. L'exemple le plus marquant, c'est le secteur de la santé. Et c'est vrai dans tous les pays, puisque on a travaillé là-dessus lors de notre dernier congrès sur le harcèlement moral qui a eu lieu en juin 2018. Le secteur de la santé non seulement les conditions de travail se sont dégradées, mais en plus, on leur met des objectifs exactement comme s'ils étaient dans le secteur privé. Au fond, il y a une financiarisation du management de l'organisation du travail qui fait que il faut que ce soit rentable. Par définition, le secteur de la santé peut jamais être rentable puisque si on soigne bien les personnes, elles vont guérir, elles vont vivre plus longtemps, etc. Ce que l'on voit, les conséquences de ça, c'est que maintenant, on a du mal à recruter, par exemple, dans les hôpitaux de la région parisienne, on n'arrive pas à recruter des infirmières, des aides-soignantes.
Et c'est d'ailleurs intégré au cursus de formation, maintenant, la souffrance au travail.
Et ça fait partie. Et voilà. Et on considère les suicides sur les lieux, dans les hôpitaux, exactement dans la même problématique. C'est-à-dire, il y a un risque pour la santé des soignants qui surinvestissent leur travail ou bien les mauvaises conditions de travail.
On n'a pas eu le temps d'aborder le cœur de votre travail qui est aujourd'hui la prévention, l'intervention en entreprise, mais je voudrais que vous me disiez ce que vous avez le sentiment au regard de ce qui vient d'être dit, de votre expérience. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont mieux, que la prise de conscience est là, que d'une certaine manière, la parole s'est libérée?
Oui, forcément, par rapport au moment où moi j'ai fait ma TS, les choses ont évolué. Par contre, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que on a des nouveaux métiers, par exemple, qui sont les Chief Happiness Officers.
C'est par exemple dans des entreprises des personnes qui s'autoproclament, on va dire, intervenant bonheur.
On les autoproclame.
J'essaye de traduire. Hein, ouais, c'est compliqué. C'est conceptuel, bonheur, on va dire.
C'est exactement ça. Et justement, il y a une vraie déconnexion du coup des RH avec ce type de métier et du terrain. Donc là on peut agir. Aujourd'hui, c'est dans la proximité, c'est dans le travail réel, c'est on se concentre et c'est ce que j'essaie vraiment de faire comprendre, c'est travaillons autour du travail réel et en fait, même par rapport aux salariés, je veux juste dire une chose, c'est très important. Pour comprendre si on va vers le burn-out, il y a quatre choses. C'est je perds vraiment la démotivation, le plaisir au travail et voilà.
Il faut aller le mot de la fin juste en deux mots. Hein.
Juste pour dire que d'un côté, il y a de plus en plus de protection des législations dans beaucoup de pays. Et de l'autre côté, quand même, les conditions de travail amènent de plus en plus de souffrances psychiques. Donc là, il y a quelque chose qui dysfonctionne.
Et il faut en reparler dans une prochaine émission parce que le temps est passé trop vite. Aude Sely, votre livre Renaissance aux éditions Maxima, votre livre Docteur Marie-France Irigoyenne, Le harcèlement moral au travail aux éditions Que sais-je. C'est aujourd'hui la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, prévention, prise en charge au féminin. Et c'est ce que propose une structure de santé parisienne, le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, avec son centre de dépistage et de traitement chirurgical dédié aux maladies de la femme. Pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec le docteur Éric Sauvanet. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de chirurgie gynécologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Alors, pour bien comprendre quelles sont les grandes pathologies qui sont prises en charge dans cette structure qui s'appelle le Centre de la Femme.
Bien oui, nous avons voulu dédier un site unique de consultation, mais aussi de plateau technique, dédié aux maladies les plus fréquentes gynécologiques de la femme, qu'elles soient bénignes ou malignes. Ça concerne essentiellement, bien sûr, l'endométriose, qui est une maladie très développée, dont on a eu l'occasion déjà de parler à plusieurs reprises. Mais au-delà de l'endométriose, il y a aussi la pathologie du fibrome, une pathologie aussi fréquente, qui a un retentissement social par les saignements, un retentissement quelquefois sur la fertilité. Donc, il s'agit de pouvoir proposer les meilleures offres de traitement. Et puis, il y a des maladies fréquentes, vous le savez, c'est les maladies du sein. Malheureusement, le cancer du sein touche une femme sur huit. Et donc, nous avons voulu créer une structure complètement autonome de ce point de vue. Et puis, de façon plus récente, on s'est intéressé également aux pathologies de la vulve. Parce que la pathologie vulvaire et la pathologie du col avec le virus papillomavirus est en pleine extension aussi. Donc de ce point de vue-là, il nous semblait important de pouvoir proposer le dépistage et le traitement de ces prises en charge.
Alors comment se passe l'interaction entre les différentes spécialités, ces différents corps de métier? Parce que bien évidemment, pour une seule maladie, plusieurs disciplines peuvent être engagées.
Exactement. Alors, on a essayé déjà d'orienter les gynécologues, qui sont souvent le premier abord, des gynécologues un peu plus spécialisés dans telle ou telle pathologie. Et puis, pour ces pathologies-là, et notamment pour la pathologie du cancer du sein, on ne peut pas travailler tout seul. Donc, on s'est adjoint évidemment les radiologues, qui sont partie totalement prenante dans notre centre. Mais aussi, on fait de la prévention, et maintenant, la génétique a beaucoup de place dans la prévention du cancer du sein. Donc, nous avons des consultations d'oncogénétique. Et puis, on essaye effectivement que cette prise en charge soit la plus globale avec un parcours patient simplifié. Donc, nous avons dans notre centre des oncologues, qu'ils soient des oncologues médicaux ou des radiothérapeutes, et puis des chirurgiens plasticiens, parce qu'il y a bien sûr la place pour faire de la chirurgie oncoplastique, pour une soit permettre les traitements les plus conservateurs du sein, soit quand ils ne sont pas possibles, de pouvoir proposer une reconstruction dans de bonnes conditions.
Pour bien comprendre, un centre qui propose toutes ses spécialités, ça comme avantage, on l'a compris avec ce que vous venez de dire, de simplifier le parcours de soins, avec donc pour la patiente moins de stress, une impression d'une prise en charge plus directe, plus adaptée à son cas singulier.
Oui, exactement. Ce qui est important, c'est de pouvoir offrir un panel de traitements, quelquefois du reste la rassurer, en disant que, voilà, simplement, il peut y avoir certaines maladies que l'on surveille et d'autres pour lesquelles on intervient, et choisir le traitement en général toujours le moins invasif et le plus conservateur pour les organes. Les femmes sont naturellement très attachées maintenant à l'utérus, et si on peut éviter une chirurgie radicale, c'est bien sûr la meilleure solution. Et puis, notre chance aussi, c'est de pouvoir avoir dans Paris, nous, un plateau technique au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph qui offre des plateaux d'imagerie, des plateaux de radiologie interventionnelle qui nous permettent d'être les plus adaptés pour chaque cas.
Voyez-vous. S'appuyer sur de la haute technologie.
Alors, l'appuyer sur la haute technologie, mais surtout sur la transversalité. C'est-à-dire que, par exemple, pour la prise en charge des troubles de la continence, que ce soit une continence anale, fécale ou de l'incontinence urinaire, eh bien tous les spécialistes doivent pouvoir intervenir et réfléchir. Ça va de la chirurgie, ça va de la rééducation, ça va au sphincter artificiel, ça va à des techniques de neuromodulation, vous voyez. Et donc, évidemment, le gynécologue, c'est pas lui qui va tout faire, mais il va adresser dans ce circuit ce qui paraît le plus pertinent.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Éric Sauvanet. On peut rappeler que vous avez co-signé l'ouvrage « Tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie » avec les docteurs Louis Yéry et Petit, livre publié aux éditions Odile Jacob. Et Priorité Santé touche à sa fin. Demain, nous allons parler de l'ostéoporose, fragilité osseuse. Comment limiter les risques de fracture? Appelez-nous si vous voulez témoigner. 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.